tout de suite l'émission Dans le Rétro. Dans le Rétro, c'est l'émission qui passe au crible l'histoire de notre territoire. Présentée par Patrick Grosjean,
accompagné de Chantal Krolik-Zack,
en partenariat avec l'association Les Amis du Blanc et ses environs. Sur Dynamo, l'histoire c'est de l'émission Dans le Rétro.
Bonjour à toutes et à tous pour notre rendez-vous mensuel. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Patrick ?
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étoile ferroviaire du Blanc.
Étoile ferroviaire, quel joli nom.
Ouais.
Mais un petit peu bizarre dans une ville qui n'a plus de gare.
Eh oui. Et pourtant, le Blanc fut naguère un centre ferroviaire important. Et cela peut paraître étonnant, mais c'est ainsi. Alors peut-être pas avec des Pacifiques 231, les fameuses locomotives, comme dans l'extrait qui va suivre, extrait d'un poème symphonique d'Honegger que nous allons entendre, mais tout de même.
Allez, petite plage musicale. À défaut des monstrueuses Pacifiques 231, il y avait tout de même de nombreuses locomotives au Blanc. Mais pourquoi l'expression « étoile ferroviaire » ?
Oui, tu as raison, il y avait de nombreuses locomotives, on le verra. Alors pourquoi l'expression « étoile ferroviaire » ? Parce qu'il y avait plusieurs branches comme dans une étoile. Et on peut même dire que c'est la deuxième étoile du Blanc.
Deuxième ? Mais quelle fut donc la première ?
La première, ce n'était pas du tout des voies ferroviaires, bien entendu, puisqu'il s'agissait de l'étoile de voie romaine. Les voies romaines, donc, qui constituaient une étoile à six branches. Il y avait deux voies qui traversaient la Brenne et qui se réunissaient à deux autres, celle venant de Bourges et Argentemagus et celle venant de Tournan. Le tout à hauteur du carrefour de l'avenue Gambetta, des rues Bordesol et des rues et de la rue des anciens combattants d'Afrique du Nord. Alors, ces voies empruntaient ensuite un chemin unique constitué par l'actuelle rue du Gué, menant précisément au Gué sur la Creuse, à hauteur de l'actuelle chute d'eau. Donc elle traversait la Creuse et elle remontait sur l'autre rive et se dédoublait. Une voie, la cinquième, en direction de Poitiers et une sixième en direction de Limoges. En fait, il n'y avait qu'une seule vraie voie, celle reliant Bourges à Poitiers. Les autres étaient plutôt d'antiques chemins gaulois qui avaient été maintenus en état. C'était donc un carrefour subsidiaire par rapport, par exemple, à celui d'Argentomagus, mais tout de même, c'était relativement important.
Admettons. Mais à présent, combien l'étoile ferroviaire comptait-elle de branches ?
Eh bien, sept. Sept, cinq lignes principales à voie normale, c'est-à-dire 1,435 m, et deux lignes subsidiaires à voie métrique.
C'est beaucoup à l'échelle du Blanc. Mais pour quelle raison un nœud ferroviaire aussi important par rapport à la taille et à l'emplacement du Blanc ?
Oui, la question se pose. Alors c'est toute une histoire. Disons que l'imperfection du réseau ferré initialement conçu apparut au grand jour après le désastre de 1870, l'accusante défaite contre les Prussiens. Nombreux furent en effet les convois militaires qui, arrêtés sur la Loire en raison de la destruction des ponts, ne purent gagner le front vers Sedan et ne purent pas apporter des renforts. Le ministre des Transports de l'époque, Charles Frycinet, conçut donc un nouveau plan en 1875. Il prévoyait la création d'étoiles ferroviaires subsidiaires pour faciliter le transport des troupes par des lignes transversales au cas où le trafic le plus direct aurait été interrompu. Et c'est ainsi que les étoiles du Blanc, de Vierzon qui existent toujours, et d'autres durent leur développement, et ce pour des considérations d'ordre stratégique.
Je comprends mieux. Ce n'est pas en raison de la modeste importance du Blanc que cette étoile fut réalisée, mais d'abord et avant tout pour des raisons stratégiques, plus militaires que commerciales.
Ah, tout à fait exact.
Mais alors, quelles étaient toutes ces branches ? Allons-y pour les cinq principales.
Oui, les cinq principales, donc 1,435 m. Elles étaient concédées à la compagnie PO. Hein. Il y avait des compagnies, ce n'était pas encore nationalisé, les chemins de fer. Alors PO, c'était la compagnie Paris-Orléans. Alors ces cinq voies étaient par ordre chronologique. La première, 1886, la voie Port-de-Pile-Leblanc. Alors Port-de-Pile, c'est un petit peu avant Châtellerault, donc sur l'axe Paris-Bordeaux, un axe important. Hein. La deuxième, 1887, c'est Poitiers-Leblanc. Cette ligne a commencé en 1883, mit donc 4 ans pour atteindre Leblanc. Troisième voie, 1888, Montmorillon-Leblanc. Elle fut commencée en 1885, elle a donc mis 3 ans pour atteindre Leblanc, et elle rejoignait la ligne Poitiers-Leblanc en rive gauche, peu avant le viaduc. Les deux lignes franchissaient ensuite la Creuse par le viaduc à voie unique, le grand viaduc du Blanc, notre tour Eiffel à nous, hein. Quatrième voie, 1889, c'est Argenton-Leblanc, reliant ainsi notre ville à l'axe, aussi très important, Paris-Limoges-Toulouse. Et enfin, en 1891, c'est Châtellerault-Leblanc, en rejoignant la ligne qui venait de Port-de-Pile-Leblanc, à Tournon-Launay, donc quelques kilomètres avant Leblanc. Mais ça n'en fait pas moins partie des lignes de l'étoile ferroviaire du Blanc.
Bon, et à présent, quelles sont les deux autres lignes subsidiaires ?
Alors, deux lignes subsidiaires qui furent concédées à des compagnies fermières, dont les tramways de l'Indre. C'était, sixième ligne, si tu veux, en 1902, la ligne Leblanc-Argent-sur-Sauldre, dans le nord du Cher. C'est le populaire BA, Leblanc-Argent, qui traversait toute la Brenne et concédait, comme je te l'ai dit, à une compagnie fermière. Et ça a vraiment désenclavé la Brenne. C'était très, très populaire. Et puis, septième et dernière ligne, elle ne date que de 1904, c'est Leblanc-Saint-Benoît-du-Sault. Et à Saint-Benoît-du-Sault, il y avait un embranchement qui permettait de rejoindre Argenton, qui était déjà desservi par la ligne Argenton-Leblanc. Mais enfin, là aussi, ça a désenclavé complètement la rive gauche de la Creuse, quoi, le sud de l'Indre.
Je suppose qu'il fallut concevoir toute une infrastructure pour recevoir ces lignes.
Ah oui, bien sûr. Alors, on va en rester au Blanc pour ne pas alourdir le propos. L'État eut à sa charge la construction d'une gare, qui existe toujours, gare dite de première classe, et qui fut inaugurée en 1886, avec salle d'attente de première et de deuxième classe, billetterie, buffet et autres installations. C'était vraiment très, très conséquent. C'est aujourd'hui l'école de musique. Alors, son implantation, l'implantation de cette gare en rebord du plateau, sur le haut de la rive droite de la Creuse, nécessita la construction de deux viaducs, le grand viaduc que nous avons déjà évoqué, hein, qui permettait le franchissement des lignes venant de Poitiers et de Montmorillon. Et il a été édifié en 1885-1886, une véritable œuvre d'art. Mais il y a aussi celui, un petit peu moins connu, du ravin de la Villerie, en direction d'Argenton, donc à la sortie est du Blanc.
Bien sûr, mais n'aurons-t-on pu faire l'économie, je vais y arriver, en construisant une gare dans la vallée?
Ben oui, ça aurait été plus logique de prime abord. Et de fait, on y songea. La gare devait initialement être construite à l'entrée du Blanc, un petit peu en amont de l'actuelle Super-Rue, donc sur la route de Châteauroux. Les lignes de chemin de fer seraient alors passées dans la vallée et auraient gagné l'actuel cimetière du Blanc. Il n'y aurait eu que des ponts ordinaires et pas de viaduc comme ça a été le cas. Mais il fallut y renoncer. On était partiellement en zone inondable. De plus, on aurait dû creuser un tunnel dans la falaise du Cerre-Thibault alors que la roche ne s'y prêtait pas. La ligne en provenance d'Argenton dut donc gagner les hauteurs au niveau de Ruffec par une pente de 10 pour 1000, et bien sûr, c'est pour ça que la gare s'est retrouvée en hauteur, si j'ose dire. Ainsi, à 2000 ans d'intervalle, et pour les mêmes raisons, les inondations possibles, retrouva-t-elle, cette nouvelle ligne, le tracé de la voie romaine qui elle-même était implantée sur le plateau. Les constructeurs de la voie ferrée durent même détruire des portions entières de la voie romaine, ils le disent dans leur rapport de travaux. Alors faisons maintenant une petite pause musicale à nouveau, pour écouter un extrait du Petit Train de Caipira du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos.
Je comprends pourquoi l'emplacement prévu de la gare a été modifié. Mais le nouvel emplacement devait poser problème. Ça ne devait tout de même pas être très pratique, dans la mesure où l'on en était encore aux machines à vapeur, très gourmandes en eau et l'eau. Elle est dans la vallée, dans la Creuse, pas sur le plateau.
Bah oui, tu as parfaitement raison. Il a donc fallu bâtir une usine élévatoire des eaux, usine aujourd'hui disparue, un petit peu en aval du viaduc, en rive droite de la Creuse. Si tu vois, c'est vers l'actuelle station d'épuration. Donc elle était en bordure de Creuse et il y avait une machine fixe qui pompait les eaux de la rivière et les propulsait par une conduite jusqu'à la gare pour alimenter deux châteaux d'eau de 150 mètres cubes chacun. Indispensable, comme tu l'as dit, aux locomotives à vapeur.
Ce n'est pas tout. Vu l'importance de ce nœud ferroviaire, il fallut construire d'autres infrastructures.
Eh oui, tu as raison. Outre les bâtiments et hangars habituels, comme la halle aux marchandises, la gare du Blanc comportait un important dépôt de locomotives avec plaque tournante de 12,50 m de diamètre, un petit peu à hauteur du château d'eau de Villehaute. Hein. Il a disparu aujourd'hui. Il y avait également un dortoir pour les chauffeurs de locomotives en transit. Il y avait enfin une remise de réparation pour 12 voitures de voyageurs. Et cette remise, elle existe encore. C'est l'actuel marché des Halles, enfin transformé en boucherie. Un ouvrage tout à fait remarquable sous une modeste apparence, parce qu'il comportait deux nefs séparées par de minces colonnes métalliques creuses servant de gouttières. Elles supportaient une fine charpente en métal, un exemple typique d'architecture métallique en honneur à la fin du 19e siècle, style Eiffel.
Et puis bien sûr, il fallait des quais.
Bah oui, bien sûr. Alors, pas autant que de lignes, mais il y avait tout de même trois quais principaux, plus un quatrième pour le BA, le petit train de la Brenne, hein, donc légèrement en arrière. Il était un petit peu indépendant des trois quais principaux. Tout cela existe encore, enfin c'est matérialisé sur le sol, ainsi que la grue et le gabarit que l'on voit derrière la gare. En revanche, le taco, lui, partait devant la gare. Et c'est un petit peu normal puisqu'il ne passait pas par le viaduc. Il dévalait l'avenue Gambetta, traversait la place à hauteur du monument aux morts, puis allait franchir la Creuse par le pont routier pour obliquer à l'est, à la sortie du pont, en direction de Mauvières, Bélabre et compagnie. Donc il partageait la route avec les charrettes, avec les voitures.
D'accord, mais au total, le trafic ne devait pas être très important, étant donné la taille du Blanc.
Ah ben, détrompe-toi. Le trafic fut intense à la grande époque, c'est-à-dire vers 1910. Le Blanc était alors une ville de garnison, avec la caserne Chanzy. Et les conscrits voyageaient en train. Il faut rappeler que, par exemple, pour la guerre de 14-18, les soldats furent mobilisés. Ils furent d'abord à Chanzy avant d'être répartis un petit peu sur le front. La gare recevait à cette époque plus de 40 convois par jour, une trentaine de trains de voyageurs et une douzaine de mouvements de marchandises. Cela dit, il ne fallait pas être très pressé. Hein. J'ai retrouvé d'anciens horaires. Il fallait 4 heures pour faire le Blanc-Poitiers, contre une heure aujourd'hui en voiture.
Oui, et je préciserai qu'il fallait 14 heures au Blanc-Argent pour faire le Blanc Argent-sur-Sauldre.
Ah, oui,
il s'arrêtait à toutes les gares.
Il s'arrêtait partout.
Mais voilà, 14 heures pour 191 kilomètres.
Oui, oui. Mais les gens appréciaient beaucoup. Parce que, ça avait quand même désenclavé la Brenne. Hein.
Bah, complètement, oui. Et puis ça permettait aux marchandises de circuler,
aux personnes
d'aller aux foires, etc. C'était important.
Oui.
C'est très étonnant tout cela. Et je suppose qu'il y eut beaucoup d'employés de chemin de fer.
Ah oui, on compte dans les 130 cheminots à la grande époque, donc toujours vers 1910. Alors, ça paraît beaucoup à l'échelle du Blanc, mais il convient de relativiser puisque le chemin de fer était grand pourvoyeur d'emploi. Il s'agissait donc, à l'échelle nationale, d'une gare de moyenne importance.
Et alors, aujourd'hui, comment cela se fait-il qu'il n'y ait plus de gare au Blanc ?
La grande époque fut de courte durée. Hein. On l'a vu, ça a été construit pour des raisons avant tout stratégiques. Cette étoile ferroviaire restait surdimensionnée pour une ville de la taille du Blanc, même s'il y a eu, comme on l'a dit, pas mal de trafic. Aussi, les ennuis ne tardaient-ils pas ? Dès 1933, la branche de Montmorillon fut fermée aux voyageurs. En 1935, il y a eu la création d'un centre d'autorail au Blanc qui apporta un sursis avec 7 trains légers et 10 autorails par jour dans chaque sens. Cependant, le TACO, le petit train qui passait au centre du Blanc, cessa de circuler en 1936. Contrairement aux attentes, la nationalisation des chemins de fer, dont on attendait vraiment le salut, en 1938, sonna le glas de l'étoile ferroviaire. Les lignes furent fermées aux voyageurs les unes après les autres, de 1939 à 1945. À cause de la concurrence des autocars, beaucoup plus rapides, mais aussi bien sûr des voitures. Ainsi qu'en raison de l'exode rural, l'un des campagnes se vidait. Seul le BA continua à vivoter jusqu'en 1953. Il y a d'ailleurs une portion de BA qui subsiste encore, vraiment dans le nord du département. Les services marchandises, quant à eux, subsistèrent quelque temps. Bah oui, il y avait en particulier des trains d'engrais, ça c'était important, puis l'usine de gaz, un embouteillage de gaz, etc. Mais ils furent progressivement supprimés à partir de 1951. La tentative de sauvetage de la gare du Blanc donna lieu dans les années 50-60 à une véritable bataille du rail. Aussi âpre que la récente bataille de l'hôpital, et aussi infructueuse d'ailleurs. Mais l'étoile ferroviaire du Blanc s'éteignit définitivement en 1994, mais il n'y avait déjà plus grand-chose. Somme toute, si on fait un petit bilan, le trafic voyageur dura moins de 60 ans et le trafic marchandises un petit peu plus d'un siècle. Bref, tout cela avec la gare, les viaducs, etc. pour si peu de temps. L'absence de gare est effectivement un handicap pour le Blanc. Mais il ne faut pas rêver, cela ne reviendra pas, les voies ont été déferrées, donc il n'y a plus de rail, il n'y a plus rien. Hein. Consolons-nous en disant qu'il reste tout de même notre imposant viaduc, comme je le disais, notre tour Eiffel, aussi inutile qu'il soit, en dehors du tourisme, puisque c'est la voie verte actuellement. Voilà, c'est fini pour le rail au Blanc, en dépit de restes importants au niveau des bâtiments, au niveau des constructions. Alors nous allons finir par une chanson célèbre, pour les gens de ma génération, « Quand j'entends siffler le train » de Richard Anthony, une histoire d'amour perdu, même si, pour nous aujourd'hui, notre amour perdu n'est pas celui d'une femme, mais d'une étoile ferroviaire.
Merci Patrick, au mois prochain.
Oui.
Je sens que maintenant tout est fini et j'entends siffler le train et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie.
C'était
l'émission Dans le rétro. Dans le rétro, c'est l'émission qui passe au crible l'histoire de notre territoire. Présentée par Patrick Grosjean, en partenariat avec l'association Les Amis du Blanc et ses environs. Sur Dynamo, l'histoire, c'est de l'émission Dans le rétro.